En 2023, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme fête ses 60 ans. Dans ce cadre, un colloque international autour de l'œuvre de Immanuel Wallerstein et sur son impact, intitulé « Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale », a eu lieu les 11 et 12 septembre 2023. La table ronde numéro 3, du mardi 12 septembre au matin, s'intitule « Épistémologie, sciences sociales, marxisme historique ». Le modérateur est Jean Coppens.
Alors, dans ma proposition de plan, je pense que j'avais passé les fins dans ce livre. Et nous allons, alors là aussi, remonter dans l'histoire, même une prémisse de la pensée d'Immanuel. Je me permets, en tant qu'ayant expérimenté, si j'ose dire, les difficultés de faire l'histoire des sciences sociales françaises, africanistes, du dernier demi-siècle, ce qui n'est pas vraiment une grande histoire, une grande période ancienne, pour faire cette histoire des idées et des rencontres, des réunions, des lectures, des ouvrages, des articles parus ou pas parus, mais rédigés quand même. Le problème des archives des sciences sociales in progress, comme on pourrait dire, est un grand problème en France, en tout cas selon moi. Je signale que le remarquable ouvrage de Jean-Michel Chapouy sur l'école sociologique de Chicago est impossible à faire sur l'école sociologique de Paris, si j'ose dire, de la même période. Donc, je crois qu'il faut écouter cette présentation avec intérêt et réfléchir surtout à comment concrétiser toutes ces préoccupations pour mettre clair les traditions dont nous sommes issus. Stéphane.
Stéphane Dufoy, Wallerstein décolonial, hypothèse sur la constitution du collectif modernité / colonialité.
The whole point of the presentation is to try and explore a rather unknown dimension of Immanuel Wallerstein's intellectual trajectory, which is the linkages, the relationship he had with some of the Latin American people who happened to have founded in the late 1990s what is called as the Modernity Coloniality Group. And this is, I think, one of the things we don't know much about. And so I will try to wonder about this, try and show some paths that we could develop. This is still a work in progress. A number of things are missing. Evidence is missing. Letters should be found to be able to really articulate those links and those relations. And also some of the testimonies that we can have so far are quite contradictory. So it would also imply some a real series of interviews with people who are still alive and who were connected with that very specific epistemological adventure that put together the Fernand Braudel Center at Binghamton and the gradual constitution of the Modernity Coloniality Group. Donc, dans un premier temps, oui, je voudrais faire une sorte d'analyse de titre, puisque hier, notre collègue Carlos Aguirre Rojas est revenu sur cette idée selon laquelle s'il fallait véritablement se poser la question de savoir si Immanuel Wallerstein avait été décolonial, il faudrait bien évidemment répondre non. Et il semblait considérer que l'une des principales raisons pour laquelle il fallait répondre non était que cette perspective décoloniale était en fait une idéologie et que par conséquent, on ne pouvait guère lui prêter de ressemblance avec ce qu'a été la perspective théorique d'Immanuel. Donc je voudrais dans un premier temps réfléchir un petit peu là-dessus, parce que déjà, il me paraît quand même assez problématique de considérer qu'un mouvement d'idées, qui est ce qu'on peut appeler la perspective décoloniale, l'option décoloniale, il me semble compliqué de considérer qu'il s'agit d'une idéologie. Et plus exactement qu'il ne s'agit que de ça. On puisse considérer qu'un mouvement d'idées, celui-ci comme un autre, peut être tout à la fois militant et scientifique, oui. Et je dirais, bien évidemment. Et ce, d'autant plus quand on a affaire à un mouvement d'idées scientifique qui lui-même est antisystémique. Et volontairement, j'utilise l'expression d'Immanuel Wallerstein pour tenter de définir, ou tout au moins de montrer un certain nombre de contours de cette perspective décoloniale. Il y a-t-il une dimension politique dans cette perspective-là? Oui. Y a-t-il une dimension militante? Oui. Peut-on pour autant en faire comme on le fait en France à l'heure actuelle, en mélangeant un néologisme qui est celui de décolonialisme avec la perspective décoloniale? Je pense que non. Là, on a affaire à ce moment-là à quelque chose qui est véritablement de l'enfumage intellectuel et une entreprise de démolition qui n'a absolument rien à voir avec le débat d'idées. Si l'on veut parler des études décoloniales ou de la perspective décoloniale, il faut la lire, il faut la comprendre, il faut comprendre ses auteurs et comprendre la complexité de ce que l'on peut considérer comme étant cette perspective. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de théorie décoloniale. Ça n'existe pas. On ne peut pas véritablement réussir à rassembler quelque chose qui ressemblerait à une théorie. Quelle raison? Parce qu'en fait, ce Modernity Coloniality Group est un collectif. C'est pas un groupe au sens où il y aurait une sorte de partage total des idées. C'est un collectif qui a été rassemblé autour de certaines idées et à partir desquelles ont été développées des perspectives qui sont différentes. Les perspectives de Quijano, les perspectives de Mignolo, la perspective de Maldonado Torres ou d'Enrique Doucel ne sont pas les mêmes. Leurs trajectoires ne sont pas les mêmes. Et c'est précisément ce qui rend intéressant le fait de comprendre pourquoi et surtout comment, c'est plus intéressant que pourquoi, il y a eu un moment où la plupart de ces auteurs se sont, et autrices, se sont rassemblés et ont pu être rassemblés. Ce qui m'intéresse ici, c'est justement comment ils, elles, ont pu être rassemblés. Et dans cette interrogation, il est essentiel de prendre en compte le rôle qu'a joué Immanuel Wallerstein. Et c'est là que je me pose justement cette question de Wallerstein décolonial. Il s'agit bien évidemment d'une provocation, non pas pour le lier fondamentalement à ce groupe-là, mais pour essayer de comprendre par quel type de mécanisme, de rencontre, d'assiduité élective, cela a été rendu possible. D'ailleurs, si l'on lit certains auteurs, je pense à Luciana Balestrino, par exemple, elle n'hésite absolument pas à considérer que Wallerstein faisait partie du groupe colonialité-modernité. Modernité-colonialité, pardon. Ce qui est un des rares cas où il est littéralement inclus à l'intérieur de ce groupe. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu plus complexe à comprendre. Et je rejoins totalement Jean Coppens quand il dit qu'effectivement, en France, nous manquons d'une sorte de tradition consistant à faire soit de la sociologie historique des sciences sociales, soit de l'histoire intellectuelle des sciences sociales, et que par conséquent, nous avons bien souvent tendance à faire une sorte d'histoire des idées un peu flottante, comme si les idées n'étaient pas portées par des individus, comme si elles n'étaient pas non plus dépendantes d'un certain nombre de rencontres, de publications, d'institutions. Et du coup, il me semble nécessaire de leur donner une chair qu'elles n'ont pas obligatoirement. Je précise, comme je le disais au départ, qu'il s'agit d'un travail qui est en cours et qui, par conséquent, est totalement teinté d'un certain nombre d'impasses, mais également sans doute d'erreurs. Et je serais ravi si, parmi vous, il y a des gens qui, soit par leur proximité avec Emmanuel, soit par leur connaissance, sont capables de me corriger et de m'indiquer des pistes nouvelles. Alors, je vais essayer assez brièvement et enlever pas mal de choses pour essayer de, en trois points, de montrer quels sont finalement les liens, ce que j'appelle les points d'appui qui peuvent exister entre Emmanuel Wallerstein et ses auteurs qui, à partir des années 1990, vont progressivement se rassembler. Il me semble que le premier point d'appui, c'est celui entre Wallerstein et Aníbal Quijano, donc ce sociologue péruvien d'inspiration marxiste. Et il me semble nécessaire de commencer par le fait que Wallerstein et Quijano écrivent ensemble en 1992 un article qui est en fait immédiatement traduit en trois langues, puisqu'il paraît dans une des revues de l'UNESCO, la Revue internationale des sciences sociales, un article qui est sur le concept d'américanité et où il considère que finalement il ne pourrait pas exister, il n'a pas pu exister d'économie capitaliste sans les Amériques. Donc, pour eux deux, l'américanité est en quelque sorte une condition de possibilité, tout à la fois, puisque les deux sont liés, de l'économie capitaliste et de la modernité. Or, la première dimension qu'ils développent tous les deux, c'est la dimension de la colonialité. C'est une des premières fois que le terme apparaît. Il est également utilisé par Quijano dans un article en espagnol paru la même année en 1992 dans la revue Perú Indígena. Mais difficile de savoir pour le moment s'il y a une sorte d'antériorité de l'usage par Quijano ou si c'est à travers cet article que cette notion de colonialité qui maintenant a fait florès, soit en tant que telle, soit par sa transformation ou son usage en termes de décolonialité. Difficile de savoir lequel a été utilisé en premier. Qu'est-ce que la colonialité dans cet article? C'est en fait la dissociation entre une colonisation effective, réelle, c'est-à-dire un lien de possession, de présence sur un territoire par un État, et le fait que, en l'absence même de colonisation effective, il peut exister des marques, des structures de colonialité qui sont en fait liées à l'existence même du système monde. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'insister là-dessus? Parce qu'en fait, l'idée du système monde, l'idée de la théorie de la dépendance, sont ici complètement liées. Un des points importants est le fait, par exemple, que selon le témoignage d'André Gunder Frank, lors des différentes conférences qui ont été organisées entre la fin des années 70 et le milieu des années 1980 sur l'économie monde ou sur le système monde, Gunder Frank mentionne que étaient présents à quasiment toutes ces conférences et Teotonio dos Santos et Aníbal Quijano. Donc on a déjà, à partir de la fin des années 1970, un lien entre les deux qui ne peut pour l'instant, en tout cas que je ne peux pour l'instant directement prouver, par exemple par des lettres ou par des échanges, mais qui semblent malgré tout être manifestes. Par ailleurs, Quijano, à partir du milieu des années 1990, quitte le Pérou, fuit le Pérou plus exactement, et est embauché comme professeur de sociologie au département de sociologie de Binghamton. Donc, on a ici un lien qui paraîtrait direct, qui est un lien de connaissance, sans doute depuis une bonne quinzaine d'années, et qui marque ce lien entre deux intellectuels qui ont été profondément marqués par la théorie de la dépendance et qui se retrouvent l'un avec une inspiration, on va dire, directement marxiste, et qui est celle de Mariátegui au Pérou, et de l'autre côté, Immanuel Wallerstein, avec cette inspiration marxiste que l'on retrouve dans le The Modern World System. On voit la manière dont il y a un lien qui est dessiné entre les deux. Le deuxième point d'appui, c'est précisément Binghamton. Je viens d'en parler pour la présence d'Annibal Quijano, mais il faut voir que ce milieu des années 1990 est également le moment où se met en place à Binghamton, essentiellement sous la direction de Ramón Grossfogel, d'Agustín Laomontes et d'Annibal Quijano, se met en place ce qui va être appelé le Coloniality Working Group, dont il est pour l'instant très difficile d'avoir plus de... Enfin, pour lequel il est difficile d'avoir beaucoup plus de détails, mais qui est mentionné dans plusieurs publications comme fonctionnant à partir du milieu des années 90. Or, quand on regarde la trajectoire de Ramón Grossfogel, donc qui est portoricain, sociologue, qui a fait sa thèse sur les portoricains à New York, son post-doctorat, il le fait en France, à la MSH, avec Immanuel Wallerstein. Et ensuite, pendant plusieurs années, il va être enseignant à Binghamton. Et c'est autour de lui, en particulier, et autour de Laomontes, qui est encore étudiant en thèse, que va commencer à se monter avec Quijano ce projet autour de l'idée de colonialité. Donc le lien se fait entre cette connaissance entre Wallerstein et Quijano et l'institut, le Centre Fernand Braudel, à Binghamton. On verra par la suite que Binghamton devient en tout cas une sorte de véritable point nodal autour duquel vont graviter plusieurs des auteurs du futur Modernity Coloniality Group. Le troisième point d'appui est a priori plus éloigné. C'est celui qui commence à se mettre en place au début des années 1990 en Amérique latine autour d'une réflexion sur la question de la modernité. Et en particulier, je pense qu'un des symboles à des moments importants est la publication en 1991 sous la direction d'Edgardo Lander, qui est un sociologue vénézuélien, la publication d'un ouvrage qui s'appelle Modernidad y Universalismo et qui, d'ores et déjà, 1991, discute cette question des rapports entre modernité et universalisme et dans lequel il y a un article d'Annibal Quijano sur la question de la modernité. On a donc ici, on va dire, en quelque sorte, trois histoires, trois pistes qui ont des origines différentes, qui sont parallèles et qui, au travers d'un certain nombre de conditions, se rejoignent à partir du milieu des années 1990 et en 1998 vont connaître une sorte de rassemblement très important. Pour comprendre Ce rassemblement, il est utile, très brièvement, de revenir sur un mouvement qui s'est mis en place au tout début des années 1990 aux États-Unis et qui s'appelle le Latin American Subaltern Studies Group, qui est un rassemblement de spécialistes de littérature latino-américaine ou espagnole, de langue espagnole ou de littérature comparée, et qui est un mouvement qui s'est donné pour objectif de redonner vigueur à une forme possible de marxisme latino-américain à un moment où justement le marxisme latino-américain, que ce soit celui du Sentier Lumineux ou que ce soit celui des sandinistes au Nicaragua, a démontré en quelque sorte, après une ascension importante, a finalement fini par décliner et a quasiment disparaître du continent. Cette revalorisation, presque cette résurrection, cette volonté de ressusciter un marxisme latino-américain se fait au travers d'un appui sur les subaltern studies indiennes, donc un appui essentiellement sur la figure de Gramsci, mais également sur la volonté de considérer ce qui existait avant l'État-nation. C'est-à-dire qu'on a affaire à une perspective qui essaye de penser notamment la question des cultures, la question des savoirs, tels qu'ils pouvaient exister avant l'État-nation et comment il est possible de leur redonner vie. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'insister là-dessus? Tout simplement parce que au sein de ce groupe-là va être discuté au tout début des années 1990 la question du rapport entre le postcolonialisme et le postmodernisme. Et notamment, en 1993, est publié un ouvrage qui s'intitule « Postmodernism Debate in Latin America ». Et dans cet ouvrage, on trouve déjà la présence conjointe de Quijano et de Doucet, qui a priori ne se sont jamais rencontrés à ce moment-là, mais qui sont déjà rassemblés au sein de cette forme de cercle virtuel que constitue cet ouvrage. À quel moment est-ce que justement se produisent ces rencontres qui vont créer ce collectif? Eh bien, elles interviennent en 1998 et elles interviennent dans un cadre qui est très particulier puisqu'il s'agit d'une session qui est organisée au sein du Congrès mondial de sociologie qui se tient à Montréal à ce moment-là, en 1998. Qui est à ce moment-là le président de l'Association mondiale de sociologie, c'est Emmanuel Wallerstein. Et il est indiqué, notamment il y a un témoignage d'Edgardo Lander qui a été l'organisateur de cette réunion, il indique que la mise en place de cette réunion s'est faite après des discussions avec Emmanuel Wallerstein. Donc il y a, même si Wallerstein ne participe pas à la session, il y a un lien qui est créé. Or, qui trouve-t-on dans cette session? Eh bien, on trouve les noms qui sont aujourd'hui complètement liés à ce groupe modernité-colonialité, c'est-à-dire les noms d'Arturo Escobar, c'est-à-dire d'Edgardo Lander, d'Aníbal Quijano, de Walter Mignolo, et voilà, Doucet n'est pas présent dans cette rencontre. Et donc ça, c'est un moment très important parce que de cette session va ensuite être tiré un ouvrage qui est consacré au savoir latino-américain, qui est publié en espagnol en 2000 et qui est un des tout premiers ouvrages. En fait, c'est le deuxième ouvrage qui rassemble ces auteurs du futur Modernity Coloniality Group. Je dis futur parce qu'en fait, le terme ne commence à être utilisé qu'à partir de 2002. Et auparavant, ce collectif n'a pas de nom. Il n'est en fait vivant qu'au travers des échanges entre ces différents auteurs. En octobre de la même année, octobre 1904,
D'accord.
En octobre 1998, autre moment important, c'est en fait la scission qui intervient au sein du Latin American Subaltern Studies Group, qui scission au cours de laquelle deux de ses membres, Walter Mignolo et Fernando Coronil, décident de quitter le groupe et en fait s'associent de manière beaucoup plus directe avec les autres auteurs que j'ai mentionnés. Troisième et dernier point de cette année 1998, je pensais continuer un peu après, mais je n'en aurai pas le temps, c'est l'organisation à Binghamton par Ramon Bosfogel et Agustín Lao Montes d'un colloque qui s'intitule, je vais vous retrouver le titre, Transmodernity, Historical Capitalism and Coloniality, d'un colloque qui en fait rassemble comme principaux orateurs Emmanuel Wallerstein, Enrique Doucel et Aníbal Quirano. Et où l'on trouve également la présence de Walter Mignolo et d'un certain nombre d'autres auteurs. Donc il y a, à mon sens, et je vais terminer là-dessus, il y a un lien historique qui est très net, que l'on pourrait par ailleurs sans doute déployer sur la base d'un certain nombre de points communs. Certainement pas d'identité de pensée. Il ne s'agit pas de pensée complètement similaire, de pensée complètement identique, mais il y a des points communs qui permettent, en quelque sorte, et qui, notamment, je pense, pour Wallerstein, ont été des moyens de réaliser ce qu'il considérait comme devant être l'ouverture des sciences sociales. Et je vous rappelle le titre du rapport de la commission Gulbenkian publié en 1996, c'est-à-dire exactement au moment où se produisent toutes ces rencontres. Et je pense que pour lui, cela signifie ça. Il n'en parle pas dans le rapport, il n'en parle pas dans son ouvrage sur l'universalisme européen, mais je demeure à peu près persuadé qu'il s'agissait d'un moyen pour lui d'avoir accès à un mouvement intellectuel antisystémique qui était en quelque sorte l'équivalent académique du zapatisme. Je ne serais pas étonné qu'il y ait quelque chose comme cela. Bien évidemment, cela ne fait pas d'Emmanuel Wallerstein un auteur décolonial. À aucun moment, ça n'est ce que j'ai essayé de dire. Mais il me semble que malgré tout, si on refuse complètement de penser ce lien, je pense qu'on se prive de comprendre une bonne décennie d'histoire intellectuelle mondiale. Je vous remercie.
Merci beaucoup Stéphane pour le large panorama interaméricain qui prouve que la comparaison mondiale ou globale de ce genre de phénomène est difficile puisqu'il y a eu toutes sortes de mouvements peut-être plus lointains dans le continent ou sous-continent indien. Je dois dire qu'en tant qu'africaniste, je suis très orphelin. Thank you.